Quand Laura Martel, journaliste en charge de la justice à RFI, est venue la première fois me parler du procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, je ne savais pas que nous y consacrerions plusieurs épisodes. Nous en avons fait trois, celui que vous allez entendre est le quatrième. Parce qu'après des mois d'audience, le verdict a été rendu. Des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, le seul membre des commandos meurtriers encore en vie. Après 149 jours de débat, que restera-t-il de ce procès ? Bonjour, vous écoutez Témoins d'actu, le podcast d'info de RFI, c'est Alexandra Cagnard, soyez les bienvenus. Un procès hors norme, c'est sans doute le qualificatif qui a été le plus utilisé dans les médias, avant même que la Cour d'assises spéciale de Paris ouvre ses portes, c'était le 8 septembre 2021. Depuis près de 10 mois, on y a entendu les accusés, 14 étaient présents, 3 comparaissaient libres, jugés pour leur rôle dans les attaques les plus meurtrières commises sur le sol français. 132 personnes sont mortes, plus de 400 ont été blessées. Les rescapés ou familles de victimes, dans le jargon judiciaire les parties civiles, se sont aussi succédés à la barre. Cela représente quelques 500 témoignages et il y a eu bien sûr les avocats. Jusqu'à ce 29 juin 2022, jour de l'énoncé des peines. Dans la salle, il y avait Nathanaël Vitran, le confrère que je m'apprête à rejoindre, et qui, avec Laura Martel, mais aussi Marine de la Moissonnière, a couvert ce procès pour RFI. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Alexandra.
Tu étais dans la salle d'audience au moment de l'énoncé du verdict. Quel mot ou quelle image te vient tout de suite à l'esprit à ce moment-là ?
Un mot ou une image. Déjà, il faut aller très vite. Le président parle vite, il faut prendre des notes. On sait qu'on va devoir raconter tout ça aux auditeurs. On essaye d'emmagasiner le plus d'images possible. On regarde cette salle qui est comble. Il y avait un monde dingue hier dans la salle d'audience. Plus qu'il n'y en a jamais eu, plus qu'au premier jour du procès, plus que quand François Hollande, l'ancien président, est venu témoigner. Et l'image qui nous vient, c'est d'abord celle des accusés qui comparaissent libres. Il y en a un qui se met à pleurer. Parce que quand il entend que... La première chose que dit le président, c'est d'abord de dire « Je ne vais pas lire toutes les questions une par une. On a répondu oui à toutes les questions, ils sont tous coupables. » Et là, ils font en larmes, parce qu'ils pensent à ce moment-là, lui qui comparaît libre depuis 10 mois, il pense qu'il va dormir en prison ce soir. Ça peut être un procès aussi extraordinaire, c'est comme un homme qui pense qu'il va aller en prison. Il y en a qui y sont déjà et qui vont y rester. Donc il y a cette image assez forte quand même de ce destin, le destin de ces 14 personnes qui va se jouer. Et en même temps, en parallèle, celui de ces très très nombreuses parties civiles, les victimes, les familles des victimes qui sont dans la salle et qui attendent que la justice soit rendue.
Et l'ambiance dans la salle, à ce moment-là, c'est laquelle ?
Alors c'est très particulier parce que les magistrats, ils ne sont revenus dans la salle qu'une fois qu'ils avaient fini de délibérer. Il n'y avait pas d'heure fixe, ils ont fini quand ils ont fini. Et donc on a attendu toute l'après-midi, d'abord sur la petite place Dauphine qui est juste à côté du palais de justice sur l'île de la Cité. Il y avait une ambiance très particulière déjà avant même de rentrer dans la salle. Toutes ces parties civiles, tous ces journalistes, il y en avait énormément qui attendaient. Il y avait une ambiance à la fois un peu légère et un peu tendue quand même, parce qu'on sentait la fin d'une expérience humaine. Et ça s'est retrouvé dans la salle parce que les gens se retrouvaient. Je te le disais au début, ils étaient très nombreux et donc des gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps se retrouvaient à nouveau. Ceux qui, au contraire, avaient assisté à toutes les audiences tous les jours, eh bien là, ils étaient ensemble peut-être pour la dernière fois, en tout cas dans ce contexte-là. Et quand la cour a fini par rentrer, eh bien là, il y a eu une tension. Effectivement, il y a eu un grand silence. Et tout le monde était quand même pendu aux lèvres de Jean-Louis Périès, le président de la Cour.
Ce procès, le 8 septembre 2021, il s'est ouvert avec beaucoup d'appréhension, à la fois du côté des victimes, de la Cour, des avocats. Et puis finalement, on a assisté à un procès d'une très grande dignité. C'était important de le donner à entendre, ça, dans les comptes rendus d'audience que tu as fait à la radio.
Oui, bien sûr. Une des toutes premières prises de parole du président de la Cour, Jean-Louis Périès, ça a été de dire « c'est un procès hors norme, mais il se doit de rester dans la norme ». Ça voulait dire « il faut que les règles du processus judiciaire soient respectées, que les droits des accusés soient respectés ». Et on a vu Laura Martel, Marine de la Moissonnière et moi, au fil des mois, les gens, les participants à ce procès, les acteurs de ce procès s'apprivoiser les uns les autres, à la fois les parties civiles dans la salle, à la fois les avocats des deux côtés, les avocats des parties civiles et ceux de la défense. Tout ce petit monde, ce microcosme a fini par s'apprivoiser. Par exemple, quelque chose de très marquant, c'est qu'au premier jour du procès, il y avait un système de cordon pour les parties civiles. Elles avaient un cordon rouge si elles ne voulaient pas être, ne pas parler à la presse, et un cordon vert si elles acceptaient d'être abordées pour répondre aux médias. Et au premier jour du procès, c'est Laura qui me l'a raconté, il y avait quasiment que des cordons rouges. Et petit à petit, les cordons rouges, ils sont devenus des cordons verts. C'est-à-dire que les gens, pas tous évidemment, hein, mais une partie des parties civiles, une partie des victimes, une partie des familles, petit à petit acceptaient de parler à la presse, acceptaient de s'ouvrir. Et on a vu des rapprochements, d'abord entre parties civiles. Et ce qui est plus intéressant, c'est le pont qui s'est créé entre ces différents acteurs, entre à la fois les avocats des parties civiles et ceux de la défense, et même entre les avocats de la défense et certaines victimes. Il y en a qui ont dit à la barre, on veut qu'il soit bien défendu, faites bien votre travail. Et ça, c'est assez exceptionnel quand même.
On comprend qu'il y a eu une vraie évolution parce que c'était important aussi de construire une histoire.
Oui, et la première évolution qu'on a pu tous constater, c'est celle des accusés. Lors de leur dernière prise de parole, les derniers mots des accusés, c'était lundi 27 juin. Ils ont tous quasiment eu un mot pour les parties civiles. Et c'était pas que une stratégie pour se faire bien voir. Il y avait de la sincérité dans beaucoup de ces prises de parole pour dire on a été touchés par ce que vous nous avez raconté, vos histoires nous ont bouleversés et on vous souhaite d'aller mieux.
Et ça, on ne l'avait pas eu au début du procès.
Non, mais les avocats de la défense l'ont aussi expliqué, en partie l'attitude de certains des accusés qui ont été pour beaucoup à l'isolement. Dans les procès terroristes, on sait que les accusés ne sont pas mélangés avec les autres. Donc certains sont à l'isolement depuis parfois 6 ans, dans des conditions qui peuvent être très difficiles. Les avocats ne l'ont pas raconté pour faire pleurer sur leur sort spécialement. Ils savent bien que ça ne va pas émouvoir des victimes d'attentats, de savoir que les personnes qui sont accusées d'avoir contribué à leur malheur sont elles-mêmes dans des conditions carcérales difficiles. Mais cet isolement, il a des conséquences psychologiques, surtout quand ces accusés se retrouvent ensuite projetés au milieu d'une salle d'audience, scrutée par à la fois des parties civiles qui ont pu être hostiles, et c'est tout à fait compréhensible à l'ouverture de ce procès, qui ont pu avoir un regard un peu uniforme sur ce bloc de 14 hommes qu'elle a pu regarder comme un même groupe, comme un même ensemble. Et donc ils se sont retrouvés, ces accusés, projetés dans cette salle d'audience. Il y a eu un choc social, ce qu'ont expliqué les avocats de la défense, certains accusés également, et qui peut aussi expliquer que, bah oui, ils n'ont pas forcément répondu à toutes les questions le plus clairement possible au premier jour du procès, et qu'il y a eu une évolution parce qu'ils ont retrouvé une vie sociale, parce qu'ils ont entendu les victimes, qu'elles les ont touchées. Bah oui, ce sont des humains, donc quand ils ont entendu le malheur auquel ils avaient peut-être contribué, même si certains continuent de nier leur implication ou qu'ils avaient la moindre connaissance de ce qui se tramait, ils ont été touchés et ça s'est senti dans ces derniers jours d'audience.
Les parties civiles, elles étaient un peu plus de 2500. Ça fait partie du gigantisme, du côté hors norme de ce procès dont tu as parlé, que j'évoquais en préambule. Ça comprend donc les rescapés, les familles de victimes. Beaucoup étaient venus avec une question. Pourquoi ? Pourquoi ces attentats ont-ils été commis ? Est-ce qu'elles ont eu une réponse ?
On a eu beaucoup de réponses sur le comment, pas toutes, sur comment se sont déroulées ces attaques, comment s'est organisée la cellule. Certains des aspects de ce dossier, on les a vraiment détaillés minute par minute, seconde par seconde avec les enquêteurs. Sur le pourquoi, alors on a reçu énormément d'experts, des spécialistes les plus éminents, des psychanalystes, des psychiatres, des spécialistes du djihadisme, du terrorisme. Mais à cette question, je crois qu'on n'a pas eu de réponse, en tout cas pas de réponse qui soit vraiment satisfaisante. On a eu quelques éléments d'explication. Hein. Sofiane Ayari, qui est ce djihadiste tunisien qui est parti en Syrie, qui a combattu sur place et qui a finalement accepté une mission en Europe, qui est donc parti, qui a pris la route des migrants pour rejoindre la Belgique. Il n'a pas vraiment expliqué ce que c'était cette mission, mais au moins, il a senti qu'il devait aux victimes qu'il avait entendues, à une en particulier, une mère de famille qui l'avait touché, ému, qui devait des explications. Et donc, il a expliqué sa vision des choses, qui était une vision plus politique et peut-être moins religieuse que celle qu'on avait détaillée avec les experts, mais sa vision politique de son engagement au sein de l'État islamique. Cette vision, elle a été accueillie de manière très diverse, évidemment par les parties civiles, par l'accusation, par tous les acteurs de ce procès, mais au moins, il y a eu un début d'explication. Mais au final, la vraie explication sur comment des jeunes Européens qui vivaient à l'occidental, qui fumaient, qui buvaient de l'alcool, qui fréquentaient des filles, comment ils se sont retrouvés dans des bars qu'ils auraient pu fréquenter eux-mêmes avec une ceinture d'explosifs, ça, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse satisfaisante.
La veille du verdict, RFI a consacré une émission spéciale à ce procès. Il y avait en plateau des avocats, de la défense, des parties civiles, des rescapés aussi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que de la colère quand même qu'il y avait au début de ce procès, qui est bien compréhensible, a découlé au fond beaucoup d'humanité. On employait le mot dignité au début de cet épisode, humanité aussi. J'ai presque envie de dire, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, qu'une famille s'était formée avec des moments qui paraissaient impensables au début du procès.
Tout à fait. Je vais juste préciser, la colère, il en reste encore énormément parmi les parties civiles. Certaines parties civiles l'ont exprimée à la barre. On exprime de la haine envers ces hommes, c'est compréhensible. C'est très beau quand certaines nous ont dit « vous n'aurez pas ma haine » ou « moi je ne veux pas céder à cette colère qui me bouffe », mais d'autres au contraire continuent de ressentir ça et c'est humain. Après tout, chacun vit les choses à sa façon. Cela dit, pour les parties civiles qui sont venues tous les jours ou presque, qui ont écouté à la web radio, puisqu'il y avait une web radio qui permettait d'écouter à distance pour les parties civiles les débats. Oui, il y a une vraie communauté qui s'est créée. Certaines se sont retrouvées, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui étaient ensemble au Bataclan, qui se sont tenus la main pendant les attaques et qui sont ensuite, en sortant, se sont séparés. Et bien, ils se sont retrouvés 6 ans plus tard dans la salle d'audience. Au fil d'un témoignage, on avait décrit une jeune fille blonde. Et puis, ben, hop, ça fait penser à quelque chose. Et puis, ils vont se parler et puis ils se rencontrent. Bah oui, ils étaient ensemble. Ils ont pu retrouver certains, le pompier qui les a guidés hors de la salle, qui est venu les aider sur les terrasses. Donc, il y a eu des moments d'humanité très forts. Et puis, surtout, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, les ponts qui se sont créés, des ponts impensables au premier jour. On a vu, donc il y a 3 accusés qui comparaissent libres. Quand il y a une pause, les audiences sont très longues, donc elles sont toujours, il y a toujours au moins 1, voire 2 pauses. Et souvent, les gens sortent prendre un peu l'air sur les marches du palais, fumer une cigarette. Ces 3-là, ils sortent fumer une cigarette. Au début, ils étaient tout seuls, parfois avec des avocats de la défense, les leurs ou d'autres, qui leur tenaient compagnie. Et puis, petit à petit, des victimes sont allées les voir, après les avoir entendus témoigner. Au début, c'était juste un regard, un bonjour, on tient la porte, un sourire. Et ça, ces 3-là, ça les a beaucoup touchés, ils l'ont dit à la barre. Du coup, on a pu assister à des scènes où des victimes de ces attaques ont pris des accusés dans leurs bras, en pleurs.
Ça paraît complètement fou, en fait.
Ça paraît complètement fou. Et les avocats de la défense nous disent la même chose. Au départ, je pensais qu'il y aurait une hostilité vis-à-vis du travail que je faisais, une incompréhension. Et je leur pardonnais à l'avance, nous avait dit un avocat. Et en fait, cette hostilité, elle a très vite disparu. Alors encore une fois, je ne fais pas de généralité. Tout le monde n'a pas eu ce regard. On ne va pas mettre toutes les victimes et toutes les parties civiles dans un bloc. Mais en tout cas, cette frontière, cette muraille qu'il pouvait y avoir entre les avocats de la défense et les parties civiles, elle est très vite tombée. C'est très rare dans un procès. Dans celui-ci, c'est devenu quelque chose de courant. Et c'est aussi la durée des audiences qui a permis à cette évolution de se produire.
Du coup, tu as l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel.
Ah, c'est complètement exceptionnel. Humainement, c'est une expérience qui est, même d'un point de vue extérieur, qui est assez unique. Si on m'avait dit au premier jour du procès, au premier jour où moi j'ai assisté à ce procès, qui avait déjà démarré depuis quelques mois, tu verras des accusés et des victimes se prendre dans les bras, tu verras des moments où tout le monde se marre dans la salle, je l'aurais jamais cru.
Beaucoup, tu l'as dit, ont mis leur vie entre parenthèses pendant ces 10 mois pour assister tous les jours ou presque au débat. Ça a été leur quotidien. Est-ce qu'ils t'ont parlé de la peur de l'après, qui forcément est compliquée quand on sort de 10 mois aussi intenses ?
Oui, évidemment. Il y a un sentiment partagé pour ceux qui ont mis leur vie entre parenthèses. Il y a aussi l'envie de retrouver autre chose, de faire autre chose, de ne plus penser qu'à ça. C'était devenu obsessionnel. Ouais, c'est devenu obsessionnel pour beaucoup de ces parties civiles qui étaient là tous les jours, qui ont essayé de comprendre. Donc oui, il y a une part d'eux qui est content que ça se termine, que cette page se tourne. Et en même temps, bah oui, ça a occupé leur vie pour certains de manière continue pendant 10 mois. Babou, qui est une des parties civiles, qui pour prendre une place dans ce... Babou, c'est son surnom, mais pour prendre une place dans ce procès, s'est mis à dessiner, à chroniquer de manière très drôle chaque audience. Elle nous disait mercredi, c'était stimulant intellectuellement. Ça leur a redonné une place aussi de recoller les pièces du puzzle à ces parties civiles. Et maintenant que c'est terminé, ben oui, il y a une peur de l'après parce qu'il va y avoir un vide. On a entendu des associations de parties civiles s'en inquiéter, parce que cette communauté humaine qui s'est recréée dans le procès entre parties civiles principalement, chacun va retrouver un peu le fil de sa vie, donc elle risque de se disloquer, des gens risquent de se retrouver à nouveau tout seuls face à leur douleur. Et ils se sont arrangés pour que les psychologues qui ont accompagné les parties civiles pendant toute la durée de ce procès soient encore disponibles, encore à distance pour pouvoir intervenir auprès des parties civiles qui ressentiraient le besoin de parler à quelqu'un.
Et toi, Nathanaël, évidemment, alors on ne peut pas comparer, on se garde bien de le faire par rapport à ce qu'on a vécu, parce que les parties civiles, parce que nous, on n'a pas subi d'attentat, mais quand on a suivi tout ce procès comme toi, comme Laura, comme Marine, j'imagine qu'évidemment, ça doit être compliqué aussi d'entendre le mot fin.
Ah bah ça va faire un vide, ça fait bientôt 6 mois que je sais tous les jours ce que je vais faire, je vais poser mes fesses sur les bancs du palais de justice et je vais écouter les audiences, je vais essayer de ressentir l'atmosphère, de raconter tout ça, de trouver une histoire à raconter chaque jour. Bah oui, c'était très stimulant intellectuellement et puis on le disait, c'était une expérience humaine assez incroyable. Là, je t'avoue que j'ai très peu dormi et que c'était un peu
non-stop. Je précise qu'on enregistre évidemment le lendemain de l'annonce de ce verdict.
Voilà, donc j'ai un peu enchaîné ces dernières heures. Donc je pense que le trou, il aura lieu dans les jours qui viennent. Ce vide qu'il va falloir combler en faisant autre chose. Mais bon, effectivement, je ne suis pas victime d'attentat. Donc moi, le vide, je le comblerai en faisant un autre travail, un autre dossier. Mais ça aura été une expérience absolument incroyable, humaine, que j'ai pu partager avec mes collègues et ça a été très précieux de partager ces moments-là, de pouvoir en discuter ensemble. Pour nous aussi, c'était devenu obsessionnel.
Merci beaucoup Nathanaël et j'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre à nouveau dans Témoins d'actu sur un autre dossier. Je voulais juste préciser, avant de vous quitter, que les images du procès ont été intégralement filmées, elles seront conservées aux Archives nationales et leur diffusion, eh bien, elle ne sera pas libre avant 50 ans.
50 ans, oui.
N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner à Témoins d'actu. Je le redis, c'est important pour lui donner plus de visibilité. Et je vous dis à très vite.